l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Jeudi 12 décembre 2024, exactement 6h15, c'est une nouvelle édition du journal sur Radio Mandeléo. Au sommaire de cette édition du journal, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle à une réflexion nationale sur les failles qui présentent l'actuelle constitution qu'il juge responsable de certains dysfonctionnements institutionnels. Il a annoncé au cours de son discours annuel sur l'état de la nation au palais du peuple hier, mercredi 11 décembre 2024. L'actualité, c'est également du sport. L'OC Bukavu dans la France, ce jeudi 12 décembre, l'Académie Football Ange Vert de Kinshasa dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1 Illico Cash de la Lina Foot. Cette rencontre se joue au stade de Tata Raphaël de Kinshasa à partir de 14h, heure de Bukavu. Pendant ces temps, dans la même compétition, un but partout, c'est le score final entre l'OC Renaissance et l'FC Étoile du Kivu. La technique est assurée par Jean-Claude Ndagui. Au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekereza. Mesdames, Messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et nous l'avons annoncé au sommaire de ces radio-journales, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert le débat sur une probable réforme de la Constitution. C'était au cours de son discours à la Nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, hier mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple. Expédicable.
Le chef de l'État a appelé à une réflexion nationale sur les failles que présente la Constitution actuelle, qu'il juge responsable de certains dysfonctionnements institutionnels. Félix Tshisekedi insiste sur le caractère inclusif de cette démarche, qui consiste à lancer une initiative visant à inviter le peuple congolais à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations des Congolais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cet extrait choisi par la rédaction de Radio Mandeléo.
Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.
Par la même occasion, le président de la République a dévoilé un plan ambitieux pour réhabiliter les infrastructures rurales l'année prochaine dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à réhabiliter 38 000 km des routes de dessertes agricoles prévues dans le PDL 145 territoires ainsi que 11 423 km des routes prioritaires supplémentaires dans un délai d'un an. Ce programme inclut également l'aménagement de 11 432 km des voies navigables destinées à la desserte agricole et la construction d'entrepôts portuaires adaptés. Ces initiatives visent à désenclaver les bassins de production, dynamiser les économies rurales et renforcer la sécurité alimentaire à travers le pays.
Merci à vous, Expédic. Changeons de chapitre. Disons que pendant que les dossiers dans l'affaire Carnage du 30 août 2023 semblaient être classés, l'organisation Amnesty International ne lâche pas cette affaire, qualifiée d'une répression sanglante perpétrée à Goma par l'armée congolaise. Plus d'un an après, cette organisation de défense des droits humains réclame le général Constant Ndima, gouverneur et chef des opérations militaires de l'époque, à la barre pour crimes contre l'humanité. Paulin Organz, notre permanent à Goma, nous fait le point.
Dans un rapport rendu public ce mercredi, cette organisation s'est joint à d'autres organisations telles que Human Rights Watch pour contester les résultats des enquêtes présentées par la justice militaire dans cette affaire qui a coûté la vie à plus de 57 civils, membres de la secte mystico-religieuse Foi Naturelle Judaïque Messianique Ouazalendo qui réclamaient le départ de la MONUSCO le 30 août 2022. Dans ces documents, Amnesty International indique que ce massacre est le résultat d'une action bien planifiée et délibérée par les autorités de la province du Nord Kivu. Selon Tegere Chaguta, directeur régional de Amnesty International en Afrique orientale, suivant les ordres du commandant des opérations militaires, l'armée a ouvert le feu sur les populations civiles non armées. Il demande au département de paix des Nations Unies d'ouvrir sans délai une enquête indépendante sur cette situation et que les vrais auteurs soient jugés pour crimes contre l'humanité. Rappelé à Kinshasa quelques jours seulement mois après ces drames, le lieutenant général Constant Dimankongba, alors gouverneur de province du Nord-Kivu, n'est jamais revenu. Plus tard, il a été remplacé par le général Peter Chirimwami. Dans un procès organisé par la justice militaire ayant conduit à la condamnation à la peine capitale du colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine en province, plusieurs prévenus ont cité nommément le général Ndima comme commanditaire, mais jusqu'à présent, rien n'a filtré sur son sort. Goma, Paulin Aganze, Radio Mandeleo.
Et partenariat pour la protection intégrée PPI a documenté 257 cas de violations commises contre les défenseurs de droits humains et les journalistes au cours de l'année 2024. Ces cas ont été rendus publics à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. De ces 257 cas de violations documentées, 80% ont été commis par les agents de l'État, notamment ceux des services de l'ordre, des sécurités, des renseignements et de la justice. Parmi ces cas, l'on note également les violences sexuelles et c'est basé sur le genre qui persiste malgré un cadre juridique imposant, indique Partenariat pour la protection intégrée PPI. Pour ce qui est de ces violences sexuelles et basées sur le genre, les lieux des commissions sont beaucoup plus les camps des déplacés à l'est de la RDC où de nombreuses filles et femmes sont abusées sexuellement. À cet effet, plusieurs recommandations sont formulées par PPI pour mettre fin à ces pratiques. Au gouvernement congolais, cette structure recommande de sanctionner toute personne investie dans le pouvoir public impliquée dans de violations contre les défenseurs de droits humains et les journalistes, mais aussi d'annuler l'arrêté interministériel augmentant les frais d'accès à la justice et des postulations pour les dommages et intérêts. Cette organisation qui œuvre pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs de droits humains salue néanmoins la promulgation de lois criminalisant les violences basées sur le genre et qui exonère les frais de justice pour les victimes. PPI déplore par ailleurs l'absence des mécanismes de financement pour couvrir les frais d'avocats et les autres besoins des victimes, qui reste une faiblesse majeure susceptible de perpétuer l'impunité en RDC. Il propose la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, accusés de soutenir les rebelles du M23 qui sèment terreur en République démocratique du Congo. À la communauté internationale de cesser tout soutien au Rwanda et à l'Ouganda en raison de leur appui aux groupes terroristes dans l'est de la République démocratique du Congo. Et le chef d'antenne secondaire de la division provinciale des droits humains dans les territoires des Kabara encourage les autorités à tous les niveaux à fournir plus d'efforts pour réduire les cas de violation des droits humains. Ombeni Bounani Jacques parle entre autres des cas d'assassinat, les arrestations arbitraires, la justice populaire, l'insécurité grandissante et toute forme de tracasserie dont sont victimes les habitants de ces territoires, particulièrement ceux de la partie nord. Il l'a dit le mardi 10 décembre 2024 à Kavumu Centre, dans le groupement de Bougoré, au cours des échanges entre les autorités locales, les services de sécurité, la société civile et les organisations des défenseurs des droits humains à l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Ombeni Bounani Jacques encourage également la population à collaborer avec les services de sécurité en dénonçant les cas suspects, n'est pas s'arrêter à arrêter des présumés bourreaux attrapés, mais de les déférer en justice et le charger en l'écoute.
Dans notre territoire de Kabare, la situation des droits de l'homme reste préoccupante. Problèmes de sécurité et plusieurs violations des droits de l'homme, comme les cas récents, nous pouvons citer. Le 22 novembre 2024, dans le groupement de Moudou, en territoire de Kabare, le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé dans un champ. Même le 26 novembre 2024, il y a une manifestation populaire dénonçant la répétition d'insécurité. Le 22 juillet 2024, les cas de braquage ont été signalés sur la route nationale numéro 2, axe routier Mite Kavumu, dans le territoire de Kabare. Le 20 novembre 2024, une femme est retrouvée près la tombe du Mwami Kabare de Manizude. La population en colère s'est appréhendée contre cette femme et elle a perdu la vie comme ça. Nous sommes en train d'observer beaucoup de cas de justice populaire dans notre ressort.
Signalons que cette journée a été célébrée à Kabare sous le thème « Nos droits, notre avenir, maintenant ». Et pendant ces temps, les jeunes du Sud qui vous sont exhortés à continuer à s'engager en proposant des solutions innovantes pour la paix. Cet engagement ne pourra se faire que sous une réelle collaboration avec l'État, les autorités locales et les différents partenaires du gouvernement provincial. Essentiel du message de la ministre provinciale de la jeunesse du Sud Kivu, Catherine Balimba-Tidjanga, le mercredi 11 décembre 2024, à l'occasion de la commémoration du 9e anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la jeunesse. Pour la ministre, un dialogue devait être renforcé pour bâtir un pont entre les différentes parties prenantes et faire en sorte que la voix des jeunes soit entendue et prise en compte à tous les niveaux des décisions. Catherine Balimba-Tidjanga en parle.
Il faut premièrement que ces jeunes soient conscients. Il faut que ces jeunes prennent le temps de travailler parce qu'il y a un problème. Lorsque vous ne travaillez pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra travailler à votre place. Moi, j'invite les jeunes à privilégier d'abord le climat de la paix et après à s'engager au travail. Non seulement dans des bureaux, mais aussi dans des initiatives privées pour l'entrepreneuriat.
L'activité qui a réuni des dizaines de représentants des associations des jeunes hommes, membres du collectif 2250, a eu lieu dans la salle d'Ombeni, sur avenue Kibombo, dans la commune d'Ibanda. Au nom de ces structures, l'animateur au sein du collectif 2250 et agissant pour le compte de la Prunelle RDC, Honneur Safari, salue l'engagement du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu dans la promotion des jeunes hommes, tout en restant convaincu que des efforts doivent être fournis. On l'écoute.
Je suis rassuré par d'abord cette présence, mais aussi par cet engagement de Madame le ministre provincial de la jeunesse. Et je sais qu'elle va, comme elle nous a dit, elle va devenir quand même notre porte-voix auprès des autorités provinciales, auprès des décideurs au niveau provincial. Et elle nous a, par exemple, demandé de venir vers elle à tout moment. Ça signifie qu'elle est prête à nous écouter et à porter nos voix pour que, dans les politiques provinciales, on puisse insérer la mise en œuvre de ce qui est contenu dans la résolution, plan d'action nationale de la résolution 2250.
Les rôles des jeunes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, 9 ans après la résolution 2250, est le thème de la journée. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maïndelem étant en direct de la ville de Bukavu.
Radio Maïndelem, la radio de proximité. Plus c'est mieux pour et avec ses auditeurs.
La suite de ces radio-journales, le personnel scientifique et administratif de l'enseignement supérieur et universitaire SU sont en grève sèche générale depuis le 9 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette grève est convoquée par le banc syndical de l'SU. Selon la chef des travaux Konkwa Biamungu Brigitte, présidente provinciale du syndicat des chefs des travaux et assistants, cette grève est convoquée par le banc syndical de l'SU suite au non-respect par le gouvernement des accords de Bibois 2. Ces accords issus des négociations de Bibois en septembre dernier prévoyait les paiements des arriérés complémentaires des 5 mois de l'année 2023 et une moitié du mois de février 2024. Au-delà de ces accords de Bibois 2, la présidente provinciale du syndicat des chefs des travaux et assistants au sud qui vous insiste sur l'amélioration des conditions sociales des agents de l'ESU. À Konkwa Biamungu Brigitte en parle.
Nous réclamons ce que nous avons toujours réclamé parce qu'on n'a pas encore eu gain de cause par rapport à ce que nous avons commencé depuis 2022. Ça fait déjà plus de deux ans que nous sommes en train de réclamer une amélioration de la situation socio-professionnelle et salariale des agents de l'ESU. Mais jusque là, l'employeur est en train de se démarquer par une mauvaise foi en faisant un semblant de geste qui malheureusement ne suffit pas. Et actuellement, nous sommes en grève parce que très récemment, aux négociations de Bibois 2, nous nous sommes convenu avec l'employeur qu'on devait payer les arriérés complémentaires de l'année 2023. C'est 5 mois qu'on devait nous payer et le 50% du mois de février. Mais malheureusement, jusque là au sud Kivu et dans beaucoup de provinces, aucun agent de l'ESU n'a encore eu cet argent-là dans son compte.
C'était là à Konkwa Biamungu Brigitte, qui est présidente provinciale du syndicat des chefs de travaux et assistants. Et dans le reste de l'actualité, les habitants de Momosho, dans le territoire des Kabarets, plaident pour des grands travaux sur les adductions d'eau existantes et qui desservent le ménage depuis plusieurs années au lieu d'orienter les financements dans de bornes et fontaines. Plaidoyer est formulé au cours d'une émission publique organisée dimanche dernier par Radio Maïndelem sur place à Momosho. Hélène Boudjiriri pour le détail.
Pour eux, les grandes sources ont été construites depuis des années avec de fortes capacités, mais au fil du temps, elles ont subi de fortes transformations qui ne leur permettent plus de produire suffisamment d'eau. Dans leurs interventions, les leaders locaux, les acteurs de la société civile et autres couches de la population ont déploré le fait qu'actuellement, des partenaires sont orientés dans la réhabilitation des sources non durables. Pourtant, des solutions durables existent. On écoute un des intervenants à cette émission publique.
Ba partenaire, ba minji, ba nanza. Plusieurs partenaires choisissent d'ignorer les autorités et plutôt passer par la zone de santé qui, au lieu de les orienter vers les vrais problèmes de la population, ils les orientent vers les petits dossiers. Nous avons de sérieux problèmes d'accès à l'eau, mais cela est délibérément ignoré. Les addictions que nous avons à Moumoucho Centre et Nyantende datent des années 80, mais qui n'ont bénéficié d'aucune réhabilitation. On préfère des sources, ce qui n'est pas durable. Nous demandons l'intervention des autorités, surtout les ministres du plan.
Tant au niveau local, provincial, va s'y impliquer, surtout ministère et à plan.
Bien plus, d'autres habitants ont plaidé pour l'amélioration de la qualité des services de soins, notamment en projetant la création d'un hôpital moderne à Moumoucho Centre. Pour eux, quitter Moumoucho Centre pour Nyantende ou Karongo, Nyangezi, en territoire de Walungu, pour atteindre un hôpital général, comporte des conséquences regard des distances à parcourir de part et d'autre. Notez que cette émission a été organisée dans le cadre du projet des médias professionnels et inclusifs pour la promotion de la redevabilité sociale, la démocratie et la cohésion sociale, exécutée avec l'appui de la coopération suisse.
À moins de 2 semaines de l'ouverture de la succursale de DRC Gold Trading SA, dans la province du Tanganyika Kalemie, l'ex-première gold de DRC SA exporte ses premiers lingots d'or de l'ordre des 100 kg. Pour marquer cet exploit jamais réalisé dans le Tanganyika, Joseph Kazibaziba, directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État, a effectué lui-même un déplacement en Kalemie afin de présider la cérémonie officielle, en présence notamment du gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba. Joseph Kazibaziba indique que ça fait plusieurs décennies que la province du Tanganyika n'a pas pu exporter plus de 100 kg d'or, ce qu'il juge inacceptable au regard des potentialités de cette province. Celui-ci a indiqué dans l'intervalle de moins de 20 jours, après l'ouverture de la succursale des Kalemie, environ 100 kg d'or ont été exportés, ce qui n'est pas suffisant, mais un grand pas pour l'atteinte des objectifs assignés. Notre source indique que la succursale des Kalemie va contribuer au développement du pays et mettre fin aux contrebandes et fraudes dans les secteurs miniers au pays. Désormais, l'or du Congo doit être bénéfique aux Congolais, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, indique notre source. Maître Joseph Kazibaziba en parle.
Ça fait beaucoup de décennies que cette province n'a pas pu exporter plus de 5 kg, ce qui est inacceptable au regard des potentialités que vous pouvez constater dans la province et l'engouement d'ailleurs de plusieurs Chinois, pour ne pas les citer, dans l'exploitation à petite échelle. Il était important qu'après l'ouverture, nous puissions arriver à cette étape où nous venons de faire notre première exportation. Je vais vous dire, cette même joie que nous avions l'année passée, quand on avait fait la toute première exportation d'ailleurs artisanale, au moment où le pays ne pouvait exporter que 25 kilos là, et que nous avions pu exporter plus de 6 tonnes dans une province. Et aujourd'hui, dans l'intervalle de moins de 20 jours, nous venons d'exporter tout aux alentours de 100 kilos d'or. Pour nous, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand pas.
Le gouverneur de cette province a invité les habitants de Tanganyika à limiter la fraude et la contrebande pour la maximisation des recettes de l'État. Plusieurs autres autorités ont participé à cette cérémonie de la première exportation de l'or du Tanganyika. Président que DRC Gold Trading, dirigé par Maître Joseph Kazibaziba, compte capter dans les 5 ans à venir et ramener dans les circuits officiels environ 150 tonnes d'or, ce qui représente près de 12 milliards de dollars américains. Il faut dire qu'après Bukavu et Kalemie, DRC Gold Trading annonce l'ouverture prochaine d'autres succursales à Bouta, à Kindu, ailleurs dans le pays. À 6h33, avant de parler sport dans ses radio-journal, poursuivant sa promotion lancée depuis le mois dernier sur l'ensemble de la province du Sud qui voit en faveur de ses clients, la maison Aujoué, spécialisée dans la vente de motos sous le label Aujoué, vient de remettre une moto et bien d'autres cadeaux à un de ses clients. Il s'agit d'Aristide Lugaba, habitant du quartier Panzi, mais qui travaille dans l'axe Mwenga, qui a appris d'avoir acheté une moto Aujoué le 25 novembre dernier, a procédé au tirage qui l'a conduit à gagner une moto parmi tant d'autres cadeaux. Jackson Moïssa, agent à la maison Aujoué, explique que la promotion a été organisée en faveur des clients, des motards et tous les habitants de la province afin de fêter avec eux en cette fin d'année 2024. Il explique que plusieurs cadeaux sont mis à la disposition de tout habitant qui viendra acheter une moto Aujoué jusqu'au 21 janvier 2025. Il suffit juste d'acheter la moto à Bukavu, comme dans le
territoire puis passer au tirage pour gagner soit une moto, une télévision ou encore d'autres effets, explique Jackson Moïssa. Bénéficiaire de cette moto à Bukavu, Aristide Lugaba remercie la maison Aoudjou et appelle les autres habitants n'aient pas hésité à tenter leur chance. On l'écoute.
Ni furaha kabambi sana. Vraiment ni jambo la kushukuru Mungu juu nitoka kunyumba.
Je suis très content. Je dis merci à Dieu car j'ai quitté mon domicile pour aller acheter une moto. Curieusement, j'ai rencontré une promotion en cours. Voilà, je rentre avec des motos. Je demande aux clients de faire confiance à Aoudjou. Certains disent que c'est du mensonge, mais je confirme que c'est vrai. On nous a dit que 8 motos étaient en jeu. Je viens de gagner une, donc les autres étaient de tenter la chance.
Et alors que cette promotion a commencé le 25 novembre et se clôture le 21 janvier prochain.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, l'OC Bukavu d'Or affronte ce jeudi 19 à 12 décembre 2024 l'Académie Football Ange Vert de Kinshasa dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1 Helico Cash de la Lina Foot. L'Angers est le positionnement au classement pour les deux équipes qui s'étalonnent sur le tableau provisoire. L'OC Bukavu d'Or est à la 6e place avec 13 points et Ange Vert occupe la 8e position avec 12 points. Pour 60 jours de Kinshasa, au-delà du staff technique et du comité, l'équipe compte sur 22 joueurs qui se sont déplacés de Bukavu jusque dans la capitale en passant par Goma. La délégation a traîné à l'aéroport international de Goma pour y quitter au milieu de la nuit avant d'atteindre Kinshasa à 3h du matin d'hier mercredi 11 décembre 2024. Malgré les conditions difficiles de voyage, les Corbeaux ont la pression derrière eux après surtout leur défaite devant les Aigles du Congo le mercredi 4 décembre dernier et le résultat nul devant Rangers. Après cette série sans victoire, il revient à Bukavu d'Awa de sortir sa tête de l'eau devant les Anges Verts pour ses mettre dans le bon sens de la marche. Cette rencontre est prévue à partir de 13h, heure de Kinshasa, au stade Tata Raphaël à 14h, heure de Bukavu. Juste après, dans le même groupe, place à la confrontation entre l'AS Vita Club et la Sekouya. Et dans la même compétition, un but partout, c'est le score final entre l'OC Renaissance et Étoile de Kivu. C'est William Bokingo de l'OC Renaissance qui a ouvert le score à la 38e minute de jeu. Les Oranges du Sud qui vont égaliser à la 62e minute, but marqué par Mackenzie Kabango. À Goma, Dauphin Noir a battu des CMP de Kinshasa sur le score de 2-0. Et sur le plan européen en Ligue des Champions, la Juventus s'est imposée avec maîtrise 2-0 face à Manchester City. Le Barça a arraché la victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund 3-2. Tandis que Bologne a obtenu le point du nul à Benfica. Score final 0-0. L'AC Milan s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'étoile rouge de Belgrade 2-1. Stuttgart a dominé Young Boys 5-1 et Arsenal a battu Monaco 3-0.
La revue de presse. Radio Maïndéléo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Hier, mercredi, les médias congolais se sont intéressés à la baisse des prix de certains biens de première nécessité. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
À l'approche des fêtes de fin de l'année, les médias reviennent sur la baisse des prix de certains biens de première nécessité. Les potentiels renseignent que les prix des biens de première nécessité sur les marchés connaissent une baisse. Et cette réduction des prix est accueillie avec soulagement par de nombreux Congolais qui subissent depuis longtemps les effets d'une inflation galopante et d'une hausse des coûts de la vie. Selon le ministre Moukoko Samba, explique le journal, l'objectif principal de cette initiative est d'alléger les fardeaux économiques pesant sur les ménages et de renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais. Et pour se rendre compte de l'effectivité de ces mesures, relate Le Quotidien, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a effectué une mission d'inspection dans certains entrepôts appartenant aux gros importateurs. Pour son premier constat sur terrain, ajoute le tabloïd, Daniel Moukoko Samba a été satisfait du dispositif impressionnant non seulement des stocks de vivres frais, mais aussi de la grille tarifaire affichée à l'entrée près des chambres froides visitées. Au cours de cette ronde, indique pour sa part Congo Nouveau, le patron de l'économie nationale a constaté que les gros importateurs ont respecté les engagements pris lundi 9 décembre devant la première ministre Judith Suminwa lors de la signature du compromis sur la mise en œuvre des luttes contre la vie chère entre les gouvernements congolais et les sociétés importatrices des denrées alimentaires de première nécessité. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, appelle les associations de défense des droits des consommateurs et la population congolaise à s'approprier ces mesures afin que cette amélioration du pouvoir d'achat touche les derniers consommateurs relais, les trihebdomadaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle l'agence congolaise des presses à signer lundi avec les principaux importateurs du pays en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, un accord pour la baisse des prix des denrées alimentaires importées. Le gouvernement avait également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des prix plus accessibles, ajoute la CP.
Exactement 6h passées de 40 minutes, mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal matinal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Jean-Claude Ndaguié au microphone pour la présentation. C'était moi, Omer Moudé Kereza. Bonjour chez vous, au revoir.